Le cercle d'une vie slow, la série qui vous inspire à incarner un nouveau monde. Pour changer de paradigme, nous avons besoin de nous nourrir autrement, d'entendre de nouvelles histoires. Ici, nous vous comptons nos graines d'inspiration et celles de nos invités. Soyez les témoins d'un nouveau possible, ici et maintenant. Je suis Chloé et vous écoutez les podcasts d'une vie slow. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Cercle d'une vie slow. C'est avec joie que je vous accueille dans cet espace d'inspiration pour vivre une vie slow. Apprendre à marcher, se déplacer et être en mouvement sans effort, prendre conscience de son formidable véhicule et s'en servir à chaque instant avec respect. Nous ne sommes que très peu à être connectés avec bienveillance à notre corps et pourtant, sans lui, pas de vie ni de réalisation de nos envies. Aujourd'hui, nous avions envie, justement, de vous partager le parcours et les talents de notre amie Ingrid Rock, thérapeute corporelle, afin de vous inspirer à plus de conscience dans vos mouvements, celui de vos enfants et de son importance dès la naissance. Bonjour Ingrid.
Bonjour Chloé et bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer ce moment, je t'invite à te présenter.
Ok, donc je suis Ingrid Rock. Je me définis aujourd'hui comme thérapeute ou interprète corporelle. Thérapeute dans le sens où, quelle que soit la demande de mes clients, on prendra un moment pour passer par le corps et écouter ce qu'il a à nous raconter, parce que pour moi, il sait tout. Et interprète dans le sens où, parfois, j'écoute ce que le corps me raconte et puis je le rapporte à la personne si ça l'intéresse. Voilà, donc j'aime bien cette notion d'interprète corporelle. Et j'adore particulièrement accompagner les femmes enceintes, parce que je m'y retrouve plus, je m'y reconnais plus. Je sais ce que c'est que d'avoir un corps de femme, plus qu'un corps d'homme, en tous les cas, dans cette incarnation-là. Et les tout-petits, les bébés. Les bébés, les enfants, c'est vraiment le plus beau des exemples. Et on a énormément à apprendre à la fois de notre corps et énormément à apprendre des bébés qui arrivent tout neufs dans cet outil, ce véhicule merveilleux et précieux. Et de les observer, ça nous donne énormément de clés. Voilà comment je me définis. Et je suis anciennement kinésithérapeute. Donc, c'est un élément, le corps, que je connais bien.
Il me semble aussi que tu as fait du sport à grande intensité aussi.
Oui, merci de me le rappeler. Oui. Et en effet, donc moi, c'était beaucoup de l'athlétisme, de la course à pied. Et je suis vraiment de la passée de la compétition, déjà en termes de relations et de rapport à moi et aux autres, à la complémentarité, de la rivalité à la fraternité, à la sororité. Et puis, dans le rapport à mon corps, je suis vraiment passée de « je maîtrise mon corps et j'exige de lui ». Et il donne à voir quelque chose de parfait à l'extérieur et je suis aux commandes. Mais à l'intérieur, c'était un putain de bordel, faut dire ce qui est. La vitrine était parfaite, mais à l'intérieur, fallait pas rentrer dans la boutique. Et aujourd'hui, mon corps, il ressemble à ce qu'il ressemble. Il est parfait tel qu'il est et surtout, je me sens vraiment bien en lui. Je suis en paix avec lui. Il y a encore des moments où quand même, je me juge un petit peu, mais surtout, je l'écoute comme un maître. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas dans la maîtrise de mon corps, c'est plutôt, je suis son disciple, quoi, en quelque sorte, parce que il a tellement de clés à m'apporter, et puis même au cours de mes séances, enfin, ce que je souligne à chaque fois, c'est gratitude, quoi. Merci pour tout ce qu'il a pu, et pas que mon corps, hein, le corps de chaque être humain, hein, je pense. Merci de rester un aussi formidable outil à ma disposition pour me mettre en mouvement, pour me faire plaisir, pour m'exprimer pleinement, pour être vecteur de telles sensations, perceptions, quelles qu'elles soient. Il y en a qui sont plus ou moins agréables à vivre. Et puis, merci tout simplement pour le corps des femmes de porter la vie, de savoir être comme ça... en mode colocation, finalement, de se mettre à disposition d'un autre être. Merci pour tout. Après, tout simplement, de respirer, de digérer, de m'offrir autant d'énergie. Et puis d'avoir enduré, parfois, des années où je t'ai maltraitée, où je t'ai malmenée, où j'ai cru te maîtriser. Et merci aussi de m'avoir rappelé à l'ordre. Merci aux bobos, merci aux blessures, merci aux douleurs, merci aux inconforts. Et de me rappeler à l'ordre et m'amener exactement là où j'ai besoin d'aller, quoi. Et parfois, de péter une durite, c'est une maladie, hein, aussi.
hyper intéressant parce que ce que tu racontes, en fait, le fait d'être en accord maintenant, vraiment, hein, j'aime bien ce mot accord. C'est comme si on s'accordait, en fait, le corps et nous-mêmes, hein, avec notre personnalité.
Oui.
C'est quelque chose vraiment que j'ai partagé dans mon livre Vivez une parentalité slow, dans tout le côté, justement, porter attention à sa santé, porter attention à son mouvement, porter attention à ses émotions et à l'expression de celle-ci dans son corps pour pouvoir se mettre en mouvement et respecter son rythme. Parce qu'aujourd'hui, on parle quand même d'une vie slow, hein. C'est tout le propos de mon podcast. Et c'est aussi ça que j'avais envie d'échanger avec toi. Quel a été ton cheminement pour trouver accord avec ton corps? Et pour toi, quelles ont été les fleurs que tu as accueillies sur ce chemin-là, en fait, pour aller vers l'accord de ton corps et de ton mouvement et de ton incarnation, finalement, de tes activités professionnelles comme personnelles, comme amicales? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu sens cet accord-là avec ton corps, en fait?
Ok, merci. J'aime bien la question. Alors déjà, être en accord avec son corps, j'aime beaucoup. Moi, je jouais sur les mots avant de nommer mon activité « être incarné », qui me plaît beaucoup. Je l'avais nommé en point d'interrogation « être à plus loin corps », un être avec un corps, quoi, finalement. Et en même temps, c'était être à corps, être raccord avec son corps. Quoi. Voilà, ça, c'est moi et mes jeux de mots, mes élucubrations. Donc, être incarné, c'est bien. Mais du coup, ça me parle beaucoup. Ce qui m'est venu tout de suite, c'était vraiment le plus grand des déclics. Ça a été au moment de mon premier accouchement. Là où il y a eu un 180, parce que 360, on serait revenu au même endroit. Entre 90 et 180 degrés, tu vois. Avant ça, il y avait, j'étais passée du contrôle de la maîtrise à complètement lâcher prise. Et même en termes d'alimentation, à des compulsions, c'était soit j'avais des tocs pas possibles, et puis à contrôler, à vouloir avoir un corps parfait comme les athlètes de haut niveau, etc. Et puis après, j'ai découvert le plaisir d'être amoureuse, le plaisir de la sexualité, le plaisir des gourmandises, quoi. Et je suis allée dans tout l'extrême. Et puis en plus, j'ai été accueillie et aimée quand même là-dedans. Alors, je dis, bon, pourquoi pas? Et du coup, je suis passée d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, je contrôle tout. Et puis, de mon corps, finalement, oui, il est source de plaisir, mais en même temps, de compulsion, tout ce que j'avais posé comme interdiction, bah, du coup, c'était la porte à tout ça. Et c'était l'orgie, quoi. Et bon, mon corps, il a supporté tout ça. Et puis, j'oscillais. Du coup, je faisais le yo-yo. Hein, les moments où je disais, non, quand même, parce qu'il y avait le premier effet de « yalla », je laisse aller, je me fous la paix, je lâche prise, mais du coup, à l'excès. Et puis, et ça, c'était le premier SUV qui se coule. C'était assez sympa, assez agréable sur le moment. Tu vois, le sucre, le plaisir, la gourmandise, etc. Et puis après, il y avait le second effet qui se coule où je ne m'aimais plus trop, je me sentais lourde, j'aimais moins ce à quoi je ressemblais, tout ça. Donc, en fait, j'oscillais d'un extrême à l'autre. Et puis, il y a eu ma grossesse, déjà ma première grossesse, où j'ai eu le projet d'accoucher à domicile. Donc, mes deux enfants, ils sont nés à la maison. Et j'ai eu la chance de pouvoir être accompagnée pour cette expérience-là par une personne qui était extraordinaire en termes d'accompagnement et en même temps assez sectaire et extrémiste en termes de recommandations d'alimentation. Donc, ça a été le premier rendez-vous avec elle. Elle m'a fait toute une liste de ce qu'il fallait que j'évite de manger pour être au mieux, au top de ma forme pour mon accouchement. Et je l'ai regardée, je lui dis donc, en fait, je ne me nourris plus parce que mon alimentation, c'est tout ce qu'il y a sur la liste, quoi. Et donc, j'ai découvert une autre manière de m'alimenter. J'ai quand même fait un peu le yo-yo aussi parce que je la mettais sur un piédestal et du coup, ça venait pas de mon intérieur, ça venait de l'extérieur et de ce qu'on m'avait dit. Et je me préparais encore en mode sportif de haut niveau et je vais me préparer à mon marathon que dans 9 mois, j'accouche, tu vois.
Ouais,
et
oui,
et du coup, j'ai encore fait le yo-yo un peu pendant cette grossesse. Et puis après, le jour de l'accouchement, je me suis retrouvée face à un mur. C'est-à-dire que là où j'ai cru pouvoir être contrôlante, en fait, j'étais en train de me challenger à vouloir absolument être sur la première place du podium, à passer presque à côté de mon accouchement et à passer à le vivre en force. C'est-à-dire, j'ai une contraction, je sais comment il faut faire. Entre deux contractions, je sais comment il faut faire. Et plus du tout me laisser, plus du tout être à l'écoute de mon corps. Et là, ben, le corps, il a dit stop.
Et c'est hyper intéressant ce que tu partages, Ingrid, parce que tu sais, souvent, comme tout diktat, en fait, c'est le diktat de la physiologie, ça peut être aussi le diktat de arriver à faire de son mieux, à être heureux, tu sais. Et c'est tout notre propos avec une Unibislo, c'est de pouvoir se connecter à son intérieur, justement. Et il n'y a pas d'outils ou de... Parce que c'est à ce moment-là où on passe en force, comme tu le dis très bien. Et c'est hyper intéressant ce que tu as partagé, ce que tu nous partages là. Parce que en fait, on se rend compte que au final, on vit pas le moment présent. On n'accueille pas ce qui est juste, comme on aime le dire toutes les deux. C'est quelque chose qu'on se dit souvent. Tout est juste. Mais c'est surtout que du coup, on n'est pas connecté à nos sensations vraiment et à ce dont on a besoin vraiment d'aller à l'instant T, quoi. Je sais pas ce que
C'est
t'en
tout à fait
penses,
ça.
mais
Ça reste extrêmement contrôlant. Et le pire là-dedans, c'est qu'on peut se raconter l'histoire, c'est une bonne chose. Mais en fait,
eh
non,
oui.
la meilleure des choses, c'est pas d'écouter, c'est pas de se discipliner et de maîtriser, de dire, voilà, je dois faire comme ci ou comme ça. C'est d'écouter au moment présent qu'est-ce qui est juste pour moi, pour que ce soit plaisant, pour que je prenne ma responsabilité, pour que ce soit vivant et vibrant, parce que sinon, clairement, c'est chiant. C'est, voilà, tu vois, c'est des non-sens. Et du coup,
Oui.
bah, ça a été super intéressant au moment de l'accouchement. Je me suis retrouvée vraiment à plus savoir, à plus pouvoir, à craquer, à réclamer, à aller à l'hôpital, à pleurer. Mon accouchement a été très long parce que j'ai pas lâché prise, quoi. Et il a fallu que je sois extrêmement fatiguée après un long travail et peu de sommeil pour me dire, OK, je m'abandonne, quoi. Je me fous la paix et je m'abandonne à cette force, à cette puissance qui me traverse et que je n'ai pas à contrôler. J'ai juste à laisser faire. Mais il m'a fallu un temps pour comprendre ça. C'est comme si je me suis abattue, je me suis laissée faire, je m'en suis remis à d'autres bras. Mais je n'ai pas trop compris sur le moment. Mon bébé est né, mon garçon est né. Il a été très fort parce que une sacrée énergie pour avoir réussi aussi à traverser ça, c'est avec moi. Et puis,
Ouais.
quelques mois après, j'ai fait une première tente rouge. J'ai pris conscience que pendant la phase d'accouchement, j'avais pas à chercher à expulser mon bébé parce que moi, je t'assure que mon premier accouchement, c'était ça. C'était, je suis là et je pousse et j'expulse et j'y vais et je suis une athlète de haut niveau, quoi. Donc, ça va marcher. Mais non, que dalle, ma cocotte. Tu vois? Et du coup, j'ai pris conscience à quel point, en fait, il suffisait, si on peut dire ça en termes de, il suffisait, mais que la plus belle des clés pour moi, c'était de s'ouvrir. Juste s'ouvrir et se laisser traverser et se laisser transporter. Et c'est maintenant ce que je transmets au couple que j'accompagne et que j'ai eu plaisir à accompagner pour vous en prénatal. C'est juste laissez-vous surprendre et laissez-vous traverser quoi, par cette énergie qui vous dépasse. Voilà. Et ça a été du coup, mon premier enseignement et énorme enseignement, c'est fous-toi la paix, sois à l'écoute de ton corps, de ce qu'il demande, et surtout ouvre-toi et remets-toi à plus grand que toi et ouvre-toi à tout ça. Voilà.
Et du coup, est-ce que tu as découvert, pourtant on est d'accord, hein, tu avais déjà fait tes études de kiné, tu étais déjà experte dans la relation à ton corps, puisque tu le connaissais bien, tu l'avais façonné pendant plusieurs années, etc. Est-ce que à ce moment-là, tu as pu connecter en fait avec justement l'intelligence du corps et des sensations à ton corps pour te permettre de te mettre en mouvement vers ce qui te semblait tes aspirations finalement. Tu vois, dans la douceur, est-ce que tu as pu contacter ça à ce
Et
moment-là
ben
ou c'était plus
clairement,
tard?
c'est super, je suis une psychothérapie du coup. Il y a plein de trucs qui me viennent. Clairement, non, ça me permet de l'introspection là. Et non, mes études de kiné ne m'ont pas appris à être à l'écoute de mon corps. Non, non, j'ai appris à quoi ressemblait le corps, mécaniquement parlant, physiologiquement parlant. J'ai appris la machine. J'ai appris et je connaissais de A à Z de quoi le corps était formé. Mais en termes d'écoute de ressenti, d'écoute d'énergie, etc., pas du tout, du tout, du tout. Et même dans ma pratique de kiné, les personnes venaient me voir en me disant, elles ont mal là. Eh bien, moi, je faisais le focus sur, OK, derrière cet espace-là du corps, qu'est-ce qu'il y a en termes de muscles, en termes d'os, en termes de nerfs. Aujourd'hui, une personne vient me voir, elle me dit par exemple, ben voilà, j'ai l'épaule gauche, tu vois, endolorie ou j'en sais rien. Et si je me retrouve à œuvrer sur son gros orteil droit, et ben j'œuvre sur son gros orteil droit et je me pose surtout pas la question du pourquoi, du comment. Et ce qui est magique et ce qui est génial, c'est que ça marche. Et du coup, on communique aussi avec le lien. Et je ne cherche plus à comprendre le pourquoi du comment. Et là aussi, du coup, dans ma pratique, je me laisse surprendre par ce qui vient. Et c'est assez magique, quoi. Donc, vraiment, moi, l'écoute de mon corps, c'est venu, même après mes accouchements, c'est venu, je pense, des premiers enseignements. Ça a été l'observation de mes bébés, enfin, de mon premier bébé, mon garçon, puis après de ma fille, 3 ans après, mais l'observation de mes bébés. Et c'est très drôle parce que mes études de kiné, je les ai faites au début pour être kiné, kiné du sport. Et puis, je me suis retrouvée à être, parce que le monde du sport, enfin, kiné du sport, c'était très... on répare les bobos pour aller mieux recasser la machine derrière. C'était de l'urgence. C'était on pense pour pouvoir être opérationnel à une nouvelle compète et puis après, on va se refracasser. Éthiquement parlant, ça ne me plaisait pas tellement de faire de la bobologie et puis de savoir que finalement, la machine, on ne la respectait pas. Et puis, c'était un monde assez machiste. Ça, ben, moi, je n'avais pas trop le tempérament qui s'y prêtait. Et puis, une fois en cours, j'ai un prof qui est venu et qui parlait de la pédiatrie, de la neuropédiatrie, qui travaillait en crèche. Et là, tu vois, rien d'y penser, j'ai l'émotion qui revient et ça me touche de nouveau. C'était, mais c'est trop ça que j'ai envie de faire, quoi. Et tu vois, je suis passée du corps des enfants en situation de handicap, hein, de la neuropédiatrie, au corps au plein potentiel. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté aussi, de connaître là où les corps ne fonctionnent pas aussi bien que ce que la personne ne voudrait, ça a été une sacrée école. Donc, tout ça pour dire que je me suis retrouvée de kiné du sport à kiné spécialisée en neuropédiatrie, en pédiatrie et finalement aujourd'hui en thérapeute corporelle. Donc, il y a un sacré cheminement. Et c'est vrai que les bébés qui sont en situation de pleine possession de leur corps ou coupés ou l'outil endommagé, l'outil corporel endommagé, ben, m'ont beaucoup appris parce que j'ai dû apprendre ben, comment les aider pour leur faciliter les chemins pour aller se déplacer. Et du coup, ça, après, ça s'applique vraiment à tout enfant, à tout bébé, qu'il soit en situation de handicap ou pas, mais ça amène beaucoup plus de subtilité, de sensibilité. Donc, si tu veux, ça a été entre mon parcours de neuropédiatrie et puis l'arrivée de mes bébés, que j'ai appris l'écoute. Une des grandes clés aussi de mon parcours a été la formation en aptonomie. L'écoute, la présence à moi et la présence au corps. Il y a l'autonomie aussi, mais voilà.
Juste pour nos auditeurs, parce que là, du coup, il y a eu plein de mots très spécifiques qui ne sont pas encore totalement accessibles à tous. Hein. C'est encore novateur et c'est aussi pour ça qu'on fait ces podcasts et pour montrer un nouveau possible. Et donc, juste tout à l'heure, tu as parlé de tente rouge. La tente rouge, ce sont des réunions entre femmes. Il y a aussi des tentes blanches, des réunions entre hommes et des tentes mixtes entre hommes et femmes. Justement, pour avoir un espace d'échange sur la féminité, sur la masculinité, sur la relation à sa sexualité, sur la relation à son corps, justement, à son statut de femme, de mère, d'homme, de père, et aussi de frère et de sœur, hein, puisque du coup, c'est aussi vachement un exercice autour de la relation et de comment être authentique dans ses relations, réussir à s'ouvrir dans un groupe, à sa vulnérabilité, à son authenticité. Et en ça, je crois que toi comme moi, hein, pour en avoir vécu, j'ai eu la chance de le découvrir à tes côtés. Eh bien, c'est vrai que les tentes rouges, ça, et les tentes, finalement, hein, les espaces de regroupement et de libération de la parole et des relations est essentiel pour aller à la connaissance de soi-même et à la libération de certains enjeux égotiques pour pouvoir être pleinement présent dans les relations que l'on a à soi et à l'autre. Puis après, tu as parlé d'aptonomie. Et l'aptonomie, moi, ça a été l'une des grandes découvertes de ma maternité, notamment la deuxième, pour l'avoir partagée à tes côtés, pour avoir cheminé à tes côtés pendant 9 mois quasiment. Hein. C'est un accompagnement, pour pas dire thérapie, parce que là, notamment l'accompagnement de la grossesse, c'est avant tout un cheminement vers soi, vers cette aventure, etc., de relation. Et donc, encore une fois, ce que tu disais bien, c'était de présence à soi, de présence à l'autre et de pouvoir définir, en fait, vraiment l'espace vital à soi-même et à l'autre. Tu es devenue praticienne en aptonomie. Aujourd'hui, si tu devais, parce que ce qui est quand même incroyable dans ton parcours, on parlera plus tard de Tony, mais c'est qu'en fait, à chaque fois, c'est la relation au corps, envie de dire au corps au pluriel, hein, en mettant le S au corps, qui a amené encore plus d'incarnation à ce que tu voulais vivre dans ton quotidien, encore une fois, professionnel et personnel.
Non, est-ce que je me trompe en disant ça? Et puis quand tu dis au corps au pluriel, ça me fait rire, ça me sourire, parce que c'est à la fois nos différents corps selon nos conceptions, nos croyances. Et puis moi, j'entends aussi les différents corps autour de moi, les différentes personnes, les différents corps en mouvement autour de moi. Oui, c'est le fil conducteur quand je vois mon chemin, même après être passée par aussi, avant de faire de l'autonomie, je m'étais formée au massage bébé, au portage des bébés. Enfin, c'est vraiment, je crois, la clé que je ressens là aujourd'hui, c'est vraiment le contact du corps de mes bébés, ce corps tout neuf, tu vois, qui est un sacré diamant quand il arrive quand même sur Terre. Et c'est comme si, tu vois, au contact, hein, c'est comme dans la belle mère, tu sais, quand elle va se recharger près des bébés, quoi, qu'elle va prendre des bébés là en maternité juste pour les poser sur elle et se recharger. Mais moi, c'était comme si le fait de sentir des bébés contre moi, je venais encoder, réencoder des trucs que j'avais oubliés. Et ça, je me souviens même quand j'ai été tata pour la première fois, donc c'était avant d'être maman, j'ai pris mon neveu dans les bras, je l'ai pris sur moi et je l'ai posé comme ça. Et puis, j'ai dit à ma sœur, mais c'est thérapeutique ton truc en fait. et du coup,
ouais,
moi-même,
mais
les personnes, je leur dis, et là, du coup, ça peut faire écho au bébé, mais je formule souvent, si vous ne savez pas quoi faire, juste observez-les, quoi. Juste observez-les, respirez. Tu sais, parfois, en pré ou post-natal, on se sent un peu en apnée, ou alors. On nous a appris, puis ça fait bien rentrer le ventre, tu vois, de pas trop montrer sa bedaine. Et puis en post-natal, on a un petit bidon normal, quoi. Pendant 9 mois, il a juste porté la vie, quoi. Donc, c'est
bah
ça,
oui.
On dit. Et du coup, il y a comme une
dyspnée, ça.
Une apnée, un truc, une respiration asynchrone qui s'installe. Et je dis aux jeunes femmes qui savent plus trop, je leur dis, mais regardez vos bébés et respirez avec eux, quoi. Et juste posez vos mains sur vos bébés. Et puis, il y a tout qui vient. Prenez vos bébés sur vous. Donc, à commencer par ça. Et puis après, pareil, quand les parents accompagnent leur enfant, ou même je suis intervenue en école de psychomotricité, les étudiants, parfois, ils me disaient, mais du coup, on ne sait pas trop où poser nos mains, nanana. Je dis, bah, si vous ne savez pas, ne faites pas semblant de savoir et juste observez, vous verbalisez, comme ça, vous ne prenez pas de risque, vous mettez vos mains derrière votre dos. Et puis juste vous encourager. Je dis ça aux parents, si vous ne savez pas, observez votre bébé ce qu'il fait et puis juste encouragez-le. Et puis ça parle d'autonomie aussi. De cœur à cœur, vous lui transmettez tout votre amour et votre confiance. Et déjà, là, il y a une super bonne base. L'idée, ce n'est pas forcément déjà encourager, c'est essayer de ne pas entraver. Parce qu'un bébé qu'on ne va pas accompagner vraiment, mais à qui on fournit le minimum, s'il y a un minimum d'amour et de présence, ça on en parle beaucoup en massage bébé, l'Himala Maclure ou alors le massage Chantala, bon, ça c'est le voyez, le truc de, même en orphelinat, les bébés qui sont massés tous les jours, eh bien, du coup, ils ont leur quota, ou alors c'est l'approche l'oxypickler aussi, et même s'il n'y a plus le lien aux parents, mais par contre, un bébé à qui on fait tous les normes, les soins d'hygiène, mais qu'on n'est pas dans la relation affective avec lui, il se laisse mourir. Donc, c'était vraiment, j'en reviens là, par contre, pardon, mais c'était pour exprimer le, si juste on envoie de l'amour, on est présent à eux, les chemins, ils les trouvent par eux-mêmes et ils finiront par s'asseoir et par se mettre debout et par marcher comme tout le monde parce qu'ils nous voient faire ça et ils ont bien évidemment envie de faire comme nous. Donc, l'idée, c'est même pas d'encourager, c'est d'essayer de respecter, de ne pas entraver et juste d'observer. Et il nous offre des clés à nous-mêmes parce que de regarder comment un bébé fait pour se retourner, pour s'asseoir, etc., c'est une sacrée preuve d'intelligence et de compétence. Ils font le minimum d'efforts pour le maximum de résultats. Et ça,
eh oui,
on
voilà.
L'a oublié. Et ils respectent énormément leur corps.
Complètement. Et d'ailleurs, nous, avec une Bislo notamment, on s'appuie énormément sur la vision permacultrice de l'existence. Un minimum d'efforts pour un maximum de résultats.
C'est ça.
Et en respectant le plus possible la physiologie de l'existence et des relations et des sensations aussi, pour être le plus efficient dans nos quotidiens. Et j'aimerais avoir d'ailleurs ton point de vue. Justement, on parlait tout à l'heure de la nécessité d'être connecté à son corps et on a pu voir à quel point ça t'a guidé dans ce que tu incarnes aujourd'hui dans ton quotidien. D'après toi, quel est ton point de vue, toi, sur pourquoi il est nécessaire de respecter justement chaque étape sans jamais les entraver, sans jamais y porter vraiment une intention forte à accompagner un bébé, ou alors tout simplement entraver peut-être même nos mouvements personnels, nous, avec notre volonté d'entraver nos sensations, quoi. Pour toi, c'est quoi la nécessité de cette connexion-là?
Oui, alors moi, ce qui me vient là en premier, c'est vraiment la notion de confort, de confiance et d'autonomie. Dès tout petit, enfin un bébé nouveau-né qui, et ça, je sensibilise tous les jeunes couples, enfin juste avant l'accouchement, il a la capacité par lui-même, et c'est important d'en parler, de vraiment, une fois qu'il est sorti du ventre, de venir trouver son propre chemin pour aller chercher le sein et subvenir à son besoin de téter, de ressentir l'odeur, les battements du cœur, etc. Donc ça, c'est Catherine Dolto qui en parle un peu plus. Et c'est encore peu véhiculé. Mais imagine-toi, tu changes d'univers complètement parce qu'on n'y est pas forcément sensible. Mais un bébé in utero, en termes de sensations visuelles, sonores, olfactives, gustatives, et en termes de apesanteur, donc relation à la gravité et d'espace, quand il passe de 9 mois in utero à ex utero, de la vie terrestre vraiment est à sec, si on peut dire ça comme ça, c'est un changement radical de paradigme et d'environnement. Et du coup, ça demande une adaptation énorme. Et en plus, il y a eu le passage quand même de la naissance, hein, qui est hyper challengeant quand même. Surtout pour un premier enfant, de venir créer le passage. Enfin, donc, ils se retrouvent dans un. Après, c'est leur choix. Hein. Je ne suis pas en train d'essayer de les sauver ou pas. Ça fait partie de nos choix d'incarnation. C'est qu'à un moment ou à un autre, on va naître. Et puis, c'est leur volonté aussi. Ils commencent à se sentir à l'étroit. Ils sont curieux de savoir ce qui se passe à l'extérieur et tout. Donc, gigot. Pardon. Mais c'est une sacrée aventure. Le chemin pour trouver la sortie, et puis la découverte de cet univers qui n'a rien à voir avec ce que j'ai connu et ce à quoi j'ai goûté pendant 9 mois et ce dans quoi j'ai évolué, grandi, grossi. Et du coup, le fait que ah, j'arrive là, et si on a pu prendre conscience que d'avoir une lumière un peu tamisée, une musique, quelque chose de doux, etc.,
Totalement.
ah, bah merci, le changement, la transition est un peu plus agréable, confortable, si on peut me laisser le temps d'atterrir, etc. Donc, c'est d'avoir cette sensibilité-là. Mais surtout, si arrivés dans ce nouveau monde, ils trouvent leurs propres moyens, leur propre chemin d'aller satisfaire leurs besoins, mais ça, c'est quelque chose qui est engrammé à vie cellulairement parlant. C'est j'arrive dans un monde que je ne connais à peine, donc je ne connais pas encore les codes, et pourtant j'arrive par moi-même à obtenir ce dont j'ai besoin. Waouh! Quel acquis pour cette vie-là! C'est génial! Donc vraiment de laisser faire parce que ça amène à de la confiance en soi, de la confiance en la vie, à de l'autonomie, à de la responsabilité. Et pour tous ces éléments-là, je trouve ça extraordinaire. Voilà, moi c'est ce qui me touche le plus.
Ça rejoint totalement ma vision des choses. Je le partage pareil en consultation et dans le livre aussi, hein, encore une fois, hein, justement sur le respect du développement et puis même de s'y reconnecter en tant qu'adulte, en fait, dans des moments importants de notre existence ou alors tout simplement dans notre quotidien quand on sent que, oh là là, ben ça bloque, quoi. On n'est pas dans notre mouvement naturel, on n'est pas dans notre physiologie, on est en train de se battre contre et pas d'être avec. Je propose aux gens en fait de justement repasser en fait par toutes les étapes de développement de je suis nouveau-né, je ne marche pas, je ne suis pas encore totalement autonome dans mes mouvements, j'ai pas encore totalement la conscience de mon corps, etc. jusqu'à la marche et de repasser par toutes ces étapes-là en ayant le moins d'efforts possible. Encore une fois, comme tu l'as dit si bien, quand on observe un bébé, il y va avec le moins d'efforts possible, le moins de sollicitations possible, avec le plus naturel. Et de pouvoir y repasser et de pouvoir sentir aussi émotionnellement ce qui se joue en fait, ce qui se vit à l'intérieur de nous et comment on co-crée avec ces sensations, avec ces émotions-là et comment on peut revenir à un confort. Tu as parlé de confort dans tes idées phares que je partage totalement. Comment revenir à un confort dans chaque étape-là pour se mettre en mouvement? Je ne sais pas si tu as observé. Moi, là, dans mes consultations ou autour de moi, avec notamment ce qu'on a vécu avec cette expérience de confinement autour de la pandémie, il y a plusieurs personnes qui ont du mal à se mettre de nouveau en mouvement vers l'extérieur. Et c'est hyper intéressant, je trouve, au niveau physique, physiologique, d'aller regarder ce qui se vit en fait émotionnellement.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de notre mise en mouvement déjà quand on était enfant et puis comment ça s'est passé notre naissance?
Oui.
Parce que finalement, ce confinement, c'est aussi un peu le retour au ventre de la maman avec tout le confort. On a eu la chance de pouvoir manger à notre faim, de pouvoir être avec les gens qui nous aiment, puis aussi de pas avoir d'enjeux à se mettre en danger au niveau de nos relations amicales ou professionnelles. Enfin, voilà. On a été très en sécurité, en tout cas pour les personnes privilégiées comme nous. On a été très en sécurité dans notre maison et parfois il est difficile de retourner à l'extérieur où c'est plus incertain. Je ne sais pas, toi, comment tu peux le traduire au niveau sensitivité et intelligence du corps?
Ouais, ça me parle énormément, énormément. Tu vois, il y a l'image là quand tu m'en parles de la hutte de sudation. C'est encore autre chose. D'ailleurs, par rapport aux tentes, je voulais aussi préciser qu'il y a des tentes roses qui existent aussi et qui sont les tentes dédiées aux jeunes filles, aux jeunes femmes, une fois qu'elles accueillent leur première lune ou juste avant. Et c'est extrêmement riche aussi. Ce sont des espaces où ça nous permet de se rendre compte, OK, je ne suis pas toute seule à galérer, quoi. En fait, tout simplement.
Ouais, c'est clair.
Ah, mais toi
c'est
aussi, ça, c'est, ben, voilà, on peut tomber des masques qu'on porte plus ou moins régulièrement. Donc, on en revient au Covid aussi, avec le port des masques en société. Donc, moi, mon intention, d'ailleurs, en sortie de confinement, c'est OK de porter des masques là où c'est indispensable. Mais si on en profitait pour dire bah, les masques à tous les autres transparents qu'on ne voit pas et qu'on a porté pendant des années, tu vois, ça pourrait être chouette.
Tellement,
Et
tellement,
je parle pour
tellement,
moi
oui.
aussi, hein, bien entendu. Et du coup, ouais, je vois le parallèle avec la sortie de confinement. Il y a vraiment l'image de la hutte de sudation. Donc, la hutte de sudation, c'est des temascas, c'est des processus qui peuvent se rapprocher de ce à quoi on goûte en rituel rebozo, qui est encore autre chose. Du coup, une hutte créée où on va vraiment retourner à la terre, transpirer, remettre ce qu'on a à remettre à la terre et ressortir comme une renaissance, quoi, après avoir évacué ce qu'on avait à évacuer et faire peau neuve. Et du coup, j'ai eu cette image de les fois où je ressors des huttes de sudation, des témascales, où j'ai l'impression je refais mes premiers pas de nouveau. Et là, le sortie de Covid, moi, c'est mon intention aussi, c'est comment est-ce que ma récolte de ce temps d'introspection, de chamboulement aussi, hein, de confrontant, de titillant, tout aussi puissant et nécessaire et bénéfique et utile que ça a pu être, hein. Et j'ai l'impression que vraiment, ça nous a amené tous pile poil là où on avait besoin d'aller, de manière très, très, très ajustée, hein, avec beaucoup d'empathie et de fermeté en même temps. Des super parents, hein, vraiment.
Complètement. Ah oui,
Et
clairement.
du coup, c'était ouais, là où tu n'es pas encore, bah, tu vas y aller, tu vas voir, plus trop le choix. Et c'est comment est-ce que je peux aller goûter, savourer et pas reprendre trop rapidement ou surtout pas reprendre mon rythme de ma vie d'avant. Comment est-ce qu'avec la récolte que j'ai fait pendant ces 2 mois, je peux aller redécouvrir mon univers avec le nouvel être que je suis? Parce que 2 mois de confinement, ça amène du changement et ça amène surtout du changement intérieur et du retour à soi. Et comment est-ce que je peux y aller sans me laisser embarquer par l'environnement, par la société, en oubliant tous mes essentiels que j'ai pu connecter. Et du coup, c'est chouette ce truc de « Ok, je sens que j'ai du mal à me remettre en mouvement, mais profitons-en, goûtons à tout et allons-y avec tout notre être et toute notre entièreté et tout ce à quoi on a connecté pendant ce temps-là. »
J'aime bien parler d'espace de curiosité. Tu sais, dans la méthode de prise de décision que j'ai développée, il y a vraiment le R de ralentir. Donc, on a un peu vécu, tu vois, avec le confinement. Le O de observer est vraiment, en fait, dans l'observation, il y a vraiment cette idée d'exploration, d'espace de curiosité, d'enthousiasme, de se dire qu'on ne sait pas et qu'on va partir vraiment de zéro, en fait. Même si on a des connaissances, même si on se dit, ah tiens, cette expérience, je la connais, etc. Ce temps d'observation vient justement nous replacer comme la découverte de l'enfant du nouveau-né qui va regarder avec enthousiasme. Oui. Tu sais, moi j'adore regarder là, je viens d'être maman nouveau d'une petite fille là qui a 2 mois aujourd'hui avec bientôt 3 mois. Mais du coup, je la vois avec ses grands yeux, tu sais, découvrir chaque instant de son existence et tout est extraordinaire, quoi. Et j'adore cet espace-là de la vie et j'essaie de le vivre le plus possible aussi dans chacun de mes accompagnements. Et puis même moi, personnellement, à chaque fois que je sens que là, j'ai besoin de faire rock, justement, hein, de ce moment d'observation, c'est très permaculteur, hein, puisque dans la permaculture, justement, on relève des informations sans jamais les juger. Et c'est vraiment ce temps d'observation-là. Et après, on aura tout le temps de conscientiser, le premier C de la méthode ROC, de conscientiser avec, et en même temps, son expérience, et encore une fois, aller vers de l'information, ouvrir les possibles, pour enfin choisir, ça c'est le deuxième C, et après le cas de Koala, pour la force de la célébration. Mais du coup, tout ça pour parler de l'espace de curiosité, d'ouverture, et donc aussi de connexion à ce qui se vit à l'intérieur de nous. Moi, j'aime bien parler du vivant. Je trouve qu'Isabelle Padovani en parle très, très bien, de se connecter à ce qui se vit, à la vie qui s'exprime à travers nous. Et donc, la connexion au corps, pour moi, me paraît fortement nécessaire. Et j'ai la sensation, dis-moi si je me trompe, parce qu'aujourd'hui, je te considère très experte au niveau du corps. Dis-moi si c'est erroné, mais j'ai la sensation que plus on permet à nos enfants de se connecter à leur corps et à la puissance de leur mouvement et d'être pleinement conscients dans leur mouvement, plus du coup après ils développent une acuité de mouvement à l'intérieur de leur vie en fait, tu vois, dans leurs choix, ils ont facilement le discernement, hein. On parle souvent de motricité libre, de laisser l'enfant explorer en fait les limites de son corps, les limites de ses mouvements par lui-même. Mais j'ai la sensation aussi que ça se traduit ensuite par les choix qu'on fait dans notre vie, d'explorer.
Moi ça me parle beaucoup parce que clairement, moi maintenant, ou même les personnes que j'accompagne, quand je suis face à un choix, oui ou non, c'est clair, j'écoute juste ce que ça fait dans mon cœur, dans mon corps. Quand ça dit oui, c'est juste, ça ouvre. Après, on a chacun nos trucs, hein. Mais moi, ça ouvre au niveau du cœur, ça pétille, ça chauffe, c'est un élan, c'est wow. Et ça, c'est mon corps qui me le dit. Par contre, si c'est un non, ça se ferme, tu vois, ça cristallise un peu, ça se fige, etc. Et après, on a chacun ses images ou ses ressentis. Et du coup, c'est le meilleur des indicateurs pour savoir qu'est-ce qui est ajusté pour être vraiment sur notre voie, quoi. Donc, c'est en effet, déjà, ne pas brusquer, ne pas entraver nos enfants là-dedans, ne pas minimiser ou moquer, tu vois, de leurs mots, de leur monde, de leur exploration. Et puis après, c'est poser nos propres mots et laisser ouvert à ce que ça se passe différemment chez eux, tu vois. C'est OK et tu peux poser. Du coup, c'est comment dans ton corps? Tu vois, tu es en colère, ou tu es hyper joyeux et tout. Ah, et du coup, si tu écoutes ton corps, c'est quoi? C'est quoi comme couleur? C'est où dans ton corps? C'est quoi le paysage? C'est quoi le personnage? Enfin, j'en sais rien. Et ça les sensibilise. Et puis au début, c'est une question bizarre parce que selon l'âge, on leur a pas souvent posé la question.
Ouais.
Et moi, j'ai pas toujours posé la question à mes enfants. Ils ont 11 et 8 ans maintenant. Je sais pas, mon garçon, j'ai dû lui poser la première fois la question. Il va avoir 5, 6 ans, tu vois. Ça a pas été au tout début. Et du coup, au début, c'était genre, maman, c'est quoi encore ce truc bizarre, quoi? Et maintenant, c'est des trucs qui font sens. Ça peut faire partir du langage commun et courant. Et sachant vraiment que, OK, moi, avec mes mots, ça donne ça, mais peut-être toi, avec tes mots, c'est autre chose. Peut-être que toi, c'est plus visuel. Peut-être que toi, c'est plus des trucs dans les oreilles qui se passent, tu vois, que tu entends des crissements ou j'en sais rien. Peut-être que tu vois flou. Peut-être que tu vois des choses que je vois pas. Ça parle aussi du corporel, finalement, parce que ça parle des sens. Donc, vraiment, ça me parle énormément. Et du coup, ça rejoint aussi la notion de confort de... Laissons-les faire et laissons-les explorer à leur manière. Parce que si on n'est pas là à leur dire comment il faut faire ci ou ça, ils trouvent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se faire mal de temps en temps, hein, mais ils vont se faire des petits bobos de temps en temps et se responsabiliser et trouver leur propre chemin. Alors que si on veut les protéger de tout ou se faire croire, leur faire croire que nous avons toutes les clés, y a un moment, j'aime bien dire, pour les enfants... dans les explorations des escaliers ou des trucs comme ça, où je dis aux parents, mais à vouloir tout protéger le moindre escalier à la maison, il y aura forcément un moment où vous allez vous trouver chez les papis, les mamies ou chez les amis ou à l'extérieur. Et puis, waouh, il va y avoir un escalier, quoi. Et genre, c'est l'Everest, quoi. C'est le truc interdit depuis des mois, mais j'ai trop envie d'y aller. Yalla. Et là, vous ne serez pas là et votre bébé, il va faire une putain de méga chute. Alors que si vous l'accompagnez dans le quotidien et vous le laissez expérimenter et vous l'accompagnez dans des petites chutes, mais vous après, voilà, vous l'accompagnez plus ou moins selon l'environnement et s'il y a vraiment danger ou pas, mais qu'ils se fassent aussi leur expérience. Ça parle énormément de ça, énormément. Et puis après, il y avait un autre truc aussi que je voulais te partager, Chloé, qui me venait, c'était vraiment quand tu disais de le retour au corps et à ses propres chemins, l'impact émotionnel, etc. dans les acquisitions. Moi, j'aime bien dire aux parents aussi qui m'interrogent sur « Ok, mais mon bébé, il est allongé, quoi. Comment ça se fait par où il va passer pour se retrouver debout dans un an ?» Tu vois, c'est quoi les étapes nanana. Et puis moi, je regarde les parents et je leur dis bah, « Amusez-vous, allongez-vous. » Mettez-vous à 100% dans votre corps, à l'écoute et puis en pleine capacité et en mode intelligent, donc flemme, c'est-à-dire je vais faire le minimum pour obtenir le maximum et voyez par où vous passez.
C'est ça.
Et goûtez à ça et puis vous allez trouver vos propres chemins et c'est en fait, il y a de fortes chances que ce soit les chemins communs à peu près, hein, les grandes lignes à tout être humain parce qu'on a des corps qui sont à peu près tous faits pareil quand même, voilà, grossièrement.
Ouais.
Et du coup, en plus, ça permet aux parents d'engrammer, de ressentir dans leur corps, ok, je passe par là, et ça me fait ci ou ça, je sens le déséquilibre, ça me libère le mouvement, sans forcément poser des mots dessus, mais c'est l'intelligence du corps qui ressent, sans forcément intellectualiser, tu vois. Et du coup, derrière, c'est tellement
Bien
plus
sûr.
Facile de ressentir, bah, tiens, où est-ce que je peux juste poser ma main ou un jeu ou adapter l'environnement pour faciliter la vie à mon bébé. Et ça passe par
Exactement.
l'intelligence corporelle, quoi, par l'exploration.
La sensitivité, quoi, hein, encore une fois, il y a tellement de pédagogues qui ont étudié l'enfant, le développement de l'être humain, etc., et qui proposent des environnements, des ambiances sensitives, en fait, pour les enfants, pour leur permettre d'explorer tout ça avec sécurité et, affective et moteur, quoi. Je veux dire, qu'on les mette pas en danger non plus, le but, c'est pas qu'ils tombent de la falaise, hein. C'est juste qu'ils regardent le paysage.
Exactement. Et qu'ils sachent. L'explorateur
nu,
je me rappelle plus du monsieur qui a écrit ce livre, L'explorateur nu, bon, où il y a plein de... C'est un monsieur extraordinaire, mais bon, son nom m'échappe. Où il y a plein d'éléments, d'informations, qui sont très intéressantes.
Pour conclure, est-ce que tu aurais pour toi des points d'attention, des clés à partager à nos auditeurs sur comment apporter de la douceur et du respect dans ses mouvements et dans la connexion à son corps et donc de pouvoir le transmettre à ses enfants dans son quotidien? Parce que c'est vrai que souvent, on se fait mal, en fait, au quotidien.
Ouais. Ça me rappelle des expériences que j'ai pu faire de jeûne ou de nourriture liquidienne vraiment pendant plusieurs semaines. Et en fait, c'était hyper riche, hyper intéressant parce que je ne pouvais plus forcer sur ma machine. C'était comme si, si je me levais trop vite ou hein, ça me ramenait au corps. Et il me disait non, ça ne va pas le faire, là, ça ne va pas passer. C'est une clé assez extrémiste. Hein. Mais juste de se rendre compte qu'avec l'énergie et en fait à chaque alimentation, on est en train de mettre de l'essence hein, dans notre corps. Après, il faut essayer d'amener la meilleure qualité d'essence quand on le souhaite. Hein, parce que bon, après, il y a des choses qui ne font pas forcément du bien au corps, mais qui font du bien au moral, à l'âme, à la gestion des émotions aussi, ou à d'autres choses. Bon, voilà, c'est un tout autre sujet encore. Mais du coup, avoir la conscience que ben, juste le fait de ralentir et peut-être de baisser en termes d'essence qu'on va amener à notre corps, ça résonne avec les plus loin sens, d'amener des trucs vraiment doux et tendres et écouter ce que notre corps raconte. C'est-à-dire, ben, tout simplement, moi j'aime bien le matin et le soir. Le matin, ben, prendre le temps d'un petit réveil corporel, quoi. Juste ça. C'est pas j'ai mon réveil et bing, je me mets debout, ou bing, je vais me mettre sur Messenger, sur Facebook ou d'autres réseaux ou je ne sais quoi. C'est OK, il a eu ce temps de repos, mon corps, là, pendant un moment. Et ben, si j'en profitais pour lui dire bonjour. Et moi, ça, avant, quand j'étais en mode jeune, si je passais en force, là, je tournais, je finissais par terre, ça passait pas. Donc, du coup, c'est comme
et
si,
oui.
Allez, ben là, aujourd'hui, on se remet en mouvement parce que la journée démarre. Et du coup, ben, de quoi tu as besoin? Et il y a des matins, ça va être plutôt de venir se caresser, d'autres un peu de frottouiller, d'autres de tapoter, des fois de faire des trucs un peu avec la voix, se masser le ventre, et puis des fois juste de passer les mains partout sans trop réfléchir. Et puis il y a des espaces du corps qui vont demander à ce qu'on appuie un peu plus fort, ou d'autres qu'on tapote, ou d'autres qu'on offre un son, des choses comme ça. Donc écoutez ça et d'essayer de le faire le matin et le soir, ou le soir ou le matin, parce que c'est des énergies différentes. Le soir, ça peut être plus, ben, merci mon corps, tu vois, pour tout ce que tu m'as permis aujourd'hui, et de revenir à des trucs qui ont été vraiment sympas à vivre, et merci pour tout ça, tu vois, on fait une belle équipe, quoi, tu vois, des trucs de ce genre-là. Ça peut être aussi avec des explorations de couple ou avec les enfants, quoi, d'écoute corporelle. Là, il y a un tas de choses, et c'est pas juste du massage pour du massage, mais au travers le jeu, il y a plein d'explorations possibles. Tu sais, les trucs tout bêtes de venir s'écrire des mots doux dans le dos ou des choses comme ça, c'est super à faire avec les enfants,
Eh
et ça
oui.
ramène vraiment aux sensations du corps, quoi. Et même à nous, c'est très sympa. Pour les petits, les bébés, ça va être de les masser, ça va être de les laisser un maximum tout nus, parce que du coup, ça enrichit les sensations. Pieds nus, bien évidemment, c'est super sympa aussi. Et puis après, tout ce qui est aussi écoute et gestion des émotions. Mais ça, c'est encore un autre sujet. D'avoir conscience que lorsqu'on nourrit l'émotion en sentiment, en ressentiment, ou lorsqu'on la braque et qu'on ne lui laisse pas la place et qu'on ne se laisse pas traverser, donc soit c'est en excès, j'en rajoute et j'en rajoute, soit je me blinde. Ben, c'est pas anodin pour notre corps. Donc ça peut être un super outil juste de savoir que, ok, je suis triste, je pleure si c'est mon moyen d'évacuer. Je suis en colère, je vais gueuler un bon coup si c'est mon moyen d'évacuer. Voilà, j'ai peur, ben, je laisse mon corps faire son processus, quel qu'il soit. Et savoir que ça ne doit pas durer des heures. Sinon, après, parfois, c'est l'ego, la triangulation qui nourrit ça. Mais en tous les cas, de ne pas s'en couper et de ne
Ouais.
pas le juger. Et il y a parfois des espaces qui ne le permettent pas. Donc, de se dire, OK, là, je suis passée en force par rapport à mon corps. Et de se dire, ben, aujourd'hui, je vais revenir à cette sensation-là et laisser exprimer pleinement. Parce que c'est comme ça, après, qu'on se trouve avec des maladies ou d'autres choses. Donc, quand même, c'est un élément important. Voilà ce qui me venait là.
C'est hyper intéressant parce que ça nourrit directement l'importance de donner le temps au temps, aux sensations, à nos émotions et de prendre ce temps-là, de s'offrir ce temps-là. Et ça nourrit directement
Oui.
le rythme slow. Donc, merci Ingrid pour cette conclusion
Cool.
bien menée.
Super.
Merci beaucoup,
Ouais,
c'était
merci à
passionnant,
toi.
Ingrid.
Merci à toi, merci à vous pour votre écoute.
Quant à vous, chers auditeurs, nous vous invitons à vivre un cercle des familles slow en ligne ce samedi 6 juin 2020 à 17h avec Ingrid et moi-même sur ce même sujet. Vous trouverez le lien d'inscription sur notre site www.unevieslow.fr dans l'onglet Cercle des familles slow. Attention, les places sont limitées à 25 familles. Vous pourrez ainsi poser vos questions, partager vos expériences et nourrir la douceur avec les corps dans votre quotidien. Nous arrivons au terme de ce deuxième épisode. C'est un plaisir de vivre avec vous cette nouvelle aventure. Je vous souhaite une vie douce et joyeuse, alignée sur vos aspirations. Une vie slow. Salut!